Ok, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans l'épisode 67 du podcast Limitless. Vous êtes bien sur la chaîne de Louis Doucet. Si vous êtes sur YouTube, les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Un petit like sur la vidéo et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui nous regardent sur les... Enfin, qui nous écoutent plutôt sur les chaînes de podcast, écoutez, abonnez-vous, partagez, mettez des notes 5 étoiles, bref. Faites vivre la chaîne, c'est très important. Au programme, aujourd'hui, on va parler... Squatter, on va parler baisse des taux et on va parler héritage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Si vous suivez ma page Insta qui s'appelle Louis Doucet, je vous ai partagé une histoire qui m'est arrivée au cours des dernières années et j'ai enfin eu gain de cause. J'ai récupéré les clés d'un appartement. J'étais squatté. Ok, j'ai eu pendant des mois des longues galères avec un mauvais payeur qui s'est transformé en squatter, d'accord ? Et le but était de vous partager un petit peu cette histoire et voir quelles sont les conclusions que j'en ai tirées. Est-ce que j'arrête l'immobilier ? Est-ce qu'au contraire, je continue ? L'affaire est à suivre. Donc dans l'idée, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai acheté un appartement en 2021, ok ? Dans un immeuble récent, appartement avec une très belle vue, etc. Bref, DPEC, ce qui était très rare aujourd'hui. Vous voyez le principe si vous faites un petit peu d'immobilier, mais dans l'idée, c'est un appartement qui est plutôt bien isolé, qui a des bonnes conditions, bref. De quoi faire le bonheur, normalement, d'un locataire. Et en fait, j'ai loué cet appartement pendant un peu plus d'un an et demi. Et par la suite, quelqu'un a pris la suite du locataire directement et j'ai accepté bêtement, ça a été une de mes erreurs. Et ça s'est bien passé pendant les quelques premiers mois. Et après, plus de nouvelles et évidemment, plus de loyers qui tombent. Et ça, malheureusement, c'est ce qui peut arriver quand on fait des erreurs de débutant. Et j'admets avoir fait ce type d'erreur. C'est que j'ai négligé le profil du locataire en me disant « Ok, il y a quelqu'un qui accepte de relouer directement après. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Testons. » Et en fait, malheureusement, c'était une erreur. Je le reconnais. Mais en même temps, c'est pour ça que vous regardez cette chaîne, c'est pour ça que vous suivez la plupart du temps mes contenus, c'est que le but, c'est de vous transmettre des infos pour vous éviter de faire des erreurs. Et en fait, si vous voulez, pour vous raconter un petit peu l'histoire en détail, la personne est arrivée dans les lieux en février 2022, ou 2023, pardon, 2023, et est restée jusqu'à hier, enfin jusqu'à la semaine dernière en réalité. On a réussi à la sortir des lieux sur négociation, mais c'était très compliqué pour vous donner un topo. La personne avait bloqué tous les numéros avec lesquels on la contactait. On lui a envoyé des dizaines de recommandés qu'elle n'est évidemment pas allée chercher. On lui a envoyé des huissiers. Rien n'y faisait, d'accord ? Elle connaissait sur le bout des doigts la législation dans un pays qui est légèrement communiste sur ces sujets-là. Et en fait, le truc, c'est qu'au début, ça fait péter un câble, ok ? Avoir un squatter chez soi, parce que en gros, passer plusieurs mois, une fois qu'il y a eu un huissier qui est passé, etc., le bail, en fait, ne vaut plus rien. Donc en fait, vous avez un occupant sans droit ni titre chez vous, donc en gros, un squatter. Le réflexe numéro un, c'est qu'on a envie d'y aller avec une batte de baseball et rentrer dans le tas, mais le problème, c'est qu'en faisant ça, on va finir en prison et en plus de ça, on a même pu récupérer notre appart. Donc, il a fallu passer par la voie de la négociation. Certains diront en commentaire, je connais direct, ouais, moi j'y serais allé, je lui aurais cassé la gueule, etc. Oui, oui, c'est bien Dylan. Ça, c'est dans les faits. Enfin, dans les faits, si tu fais ça, ça peut marcher. Mais le but, moi, c'est pas de me retrouver en galère avec la justice. Le propriétaire gagne toujours au bout du compte, d'accord ? C'est juste, il faut être capable de tenir la durée. L'erreur, si je devais retenir un point et vous faire gagner du temps, c'est que je me suis précipité dans une relocation, d'accord, dans mes appartements. Et la deuxième erreur, c'est que j'aurais dû prendre une garantie loyer impayé. Ça m'aurait largement soulagé dans cette procédure, ok. Même si, dans les faits, ça va, il n'y avait pas mort d'homme, mais c'est quand même chiant à gérer. Et surtout, j'ai eu la chance que ça n'intervienne que sur un... après plusieurs projets réalisés. En fait, si vous voulez... Quand un débutant se lance dans l'immo, si ça lui arrive dès le premier coup, ça peut le dégoûter de l'immobilier. Et je peux comprendre. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au bout de plusieurs mois, comme j'ai continué évidemment de payer les financements, etc., l'appartement a continué de se rembourser. J'ai récupéré les clés. Bon, l'appartement est entièrement ravagé, donc il faut entièrement le refaire, d'accord. Mais est-ce que pour autant, c'est une mauvaise opération? Bah, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait le calcul en regardant les chiffres actuels, d'accord, par rapport à l'année dernière et même l'année d'avant, parce qu'en fait, à l'époque, quand il a été reloué, il n'a pas été augmenté en termes de loyer. Je l'ai reloué au même prix. Je me suis dit, bon, bah, prenons le locataire qui veut le reprendre et acceptons. Et en fait, l'erreur était que si j'avais réalisé les travaux que je vais réaliser désormais, en faisant les calculs et une étude de marché, je me suis rendu compte qu'on pouvait louer quasiment 30% plus cher l'appartement. Donc, si vous me suivez sur Instagram, je vous l'ai partagé cette semaine, mais je vais continuer de vous le partager parce qu'en fait, je suis en train de tout casser, tout rénover. Je vais transformer, en fait, c'est un grand studio que je vais transformer en deux pièces. Il a une très belle vue. Donc, l'avantage d'avoir un deux pièces par rapport à un studio, c'est que ça se loue plus cher, d'accord? Tout simplement, les gens aiment bien avoir un coin de nuit. Et par conséquent, l'objectif va être là de poser une cloison avec une belle verrière. L'appartement a une très belle vue. Il est extrêmement lumineux pour un studio. Il y a trois grandes fenêtres. Donc, je vous montrerai ça un petit peu plus en détail. Et voilà pour ce sujet. Mais la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que si vous avez envie d'investir dans l'immobilier et que vous vous dites que il va y avoir potentiellement des galères avec des différents squatters, etc. N'ayez pas ça en tête directement. Sachez une chose, c'est que ça représente à peine 2% des situations locatives en France. Et dans ces chiffres-là, vous avez le parc public qui est en gros tout ce qui va être logements sociaux, sociétés HLM, etc. Et en fait, certes, il y a un risque. Mais moi, ça intervient parce qu'à un moment donné, quand on fait du volume, bah, au bout d'un moment, ça risque d'arriver, d'accord? Mais on peut se prémunir de ces situations-là. Vous avez des garanties, d'accord? Garanties loyer impayé. Vous avez des garanties, par exemple, qui vous couvrent jusqu'à 60 000 euros de loyer. Moi, typiquement, sur cet appartement, on était à 500 euros, un peu plus de 500 euros par mois de loyer. Bah, 500 euros de loyer, si vous faites ça x 12, ça vous fait 6 000 euros. 60 000 euros d'impayé couvert, ça veut dire que à moins que le squatteur ou le mauvais payeur reste plus de 10 ans, vous êtes intégralement remboursé par l'assurance. Et pour avoir un cabinet de gestion qui s'appelle AD Gestion, d'ailleurs, petite pub, pour avoir un cabinet de gestion et avoir suivi bah, pas mal de dossiers avec des contentieux, etc., et notamment des assurances qui jouent, les assurances jouent le jeu. En fait, à partir du moment où tout le dossier est béton, que tout a été bien réalisé, que l'inscription auprès de l'assurance a été fait en amont lorsque le locataire rentre dans les lieux, bah derrière, l'assurance prend le relais. Ils prennent en charge généralement toute la procédure juridique, le fait de payer des huissiers, etc. Et en fait, voilà comment avoir de la tranquillité. Donc, la réponse à la question de départ, est-ce qu'il fallait se dire « j'arrête l'immobilier ou je continue ?» La réponse est évidemment « il faut continuer ». Et je vais vous dire, au final, ça ne va pas être une si mauvaise opération que ça, puisque l'appartement, il a été acheté en 2021. Quand je regardais d'ailleurs à l'époque, j'avais eu un taux à 1,20, ce qui aujourd'hui est miraculeux. Mais bon, comme quoi, en fait, le meilleur moment, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, excusez-moi, c'est aujourd'hui. C'est qu'en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que le temps passe, les capitaux se remboursent. Et en fait, les gens qui se posaient des questions en 2018, bah, s'ils se posaient la question de savoir s'il valait mieux investir en 2018 qu'en 2024, évidemment. Mais en même temps, on vous l'avait dit à l'époque, et personne n'a bougé. Et on va parler de la baisse des taux juste après. Mais entre-temps, on va parler de l'héritage. Mais juste pour clôturer sur ce sujet, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on fait les choses correctement, qu'on planifie correctement les choses, qu'on anticipe les coûts, les investissements, qu'on fait bien ses calculs, vous ne pouvez quasiment pas perdre d'argent dans l'immobilier. Il peut y avoir des gros aléas, mais sur la durée, vous gagnez de l'argent, d'accord? Entre 2021 et 2024, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 30% d'augmentation de loyer, c'est beaucoup. C'est beaucoup et pour autant, ça reste des loyers de marché. C'est-à-dire que là, en me mettant après travaux ISO par rapport au loyer qu'on va trouver sur le marché, je vais augmenter drastiquement les cash flows sur cet appartement puisque le financement est resté le même, d'accord? C'est tout l'avantage, c'est qu'il y a une inflation sur les loyers. Mais comme on n'est pas sur des taux variables et qu'on a emprunté à taux fixe, bah on est sur ce qu'on appelle des annuités constantes. Et les annuités constantes, comme leur nom l'indique, elles ne bougent pas. Et pour autant, si vous avez des annuités qui restent à ce niveau-là et que petit à petit, année après année, votre loyer augmente, bah, mécaniquement, si dès le début, vous aviez déjà du cash flow positif, bah, petit à petit, votre cash flow augmente et le coût de la dette est de plus en plus faible par rapport à ce que vous encaissez. Et c'est pour ça qu'en fait, l'immobilier, il y a certes un travail de mise en place qui est important. Je vous le dis et je vous le redis systématiquement. D'ailleurs, parenthèse, si vous êtes intéressé par ces sujets, vous avez 40 minutes offertes de formation sur le sujet en description de cette vidéo ou du podcast. Fin de la parenthèse, les amis, il faut bien comprendre une chose, c'est que le temps vous fait gagner de l'argent avec l'immobilier. Et ça, c'est le point principal et c'est l'atout principal de l'investissement immo. Et bref, voilà pour ce sujet. Maintenant, je voulais aborder un point hyper important avec vous. Sachez une chose, c'est que si vous êtes, si vos parents détiennent du patrimoine, que ce soit une maison à 100 000 euros ou un appartement à 1 million d'euros à Paris, c'est le même principe. Si vous n'anticipez pas, vous ne pourrez pas garder le patrimoine de vos parents. Et c'est comme ça que la plupart des riches, entre guillemets, passent les siècles et deviennent de plus en plus riches et que les grandes familles deviennent toujours plus grandes. Et la classe moyenne et les gens qui sont pauvres, entre guillemets, s'appauvrissent d'année en année et n'arrivent pas à conserver le patrimoine généré par les parents. Pourquoi ? Parce que votre héritage dépend de la compétence que vous avez en matière de fiscalité. Pourquoi ? Parce que Bernard Arnault ne va quasiment pas payer d'impôts sur la transmission de son patrimoine à ses enfants. Et pourquoi Liliane et Jean-Marc vont payer quasiment 40%, 50%, voire plus, sur la transmission de leur patrimoine à leurs enfants. Tout simplement parce qu'il y a un manque de connaissances en matière de fiscalité. En fait, à partir du moment où vous avez, si vous voulez, anticipé la transmission de votre patrimoine à vos enfants, et je vous dis ça, j'ai 30 ans, j'ai pas d'enfants, mais je l'anticipe dès maintenant, le fait d'avoir des sociétés qui détiennent du patrimoine plutôt que de les avoir en nom propre, c'est tout un tas de choses qui vous permettent d'optimiser au maximum votre fiscalité. Comprenez bien une chose, c'est que si par exemple, vous allez hériter d'une maison à 400 000 euros de vos parents et je vous souhaite l'hériter le plus tard possible pour que vos parents meurent le plus tard possible, mais un jour, factuellement, ça arrivera. Sachez que vous pouvez payer jusqu'à plus de 100 000 euros à devoir sortir pour pouvoir ne serait-ce que conserver la maison. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Bah, en fait, c'est simple. La plupart des gens n'ont pas de trésorerie. Donc, du coup, ils vont devoir revendre le patrimoine dans la précipitation. Généralement, quand le patrimoine était habité par une personne âgée, bah, ça nécessiterait des travaux, sauf qu'en fait, on a déjà besoin de trésorerie pour payer les impôts. Et oui. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Bah, on va vendre un bien en mauvais état. On a en plus 6 mois pour payer les droits de succession. Sinon, l'État vous tombe dessus. Parce que l'État, ce n'est pas son problème, hein. Je vous rassure. L'État, bah, quoi qu'il arrive gagner, il va encaisser son argent. Votre situation, le fait qu'il vous reste un petit peu d'argent sur le patrimoine qui a été constitué par vos parents pendant toute une vie, ça, c'est pas vraiment leur problème. Vous savez, l'État est une masse informe qui a peu d'intérêt pour votre situation. Donc, comprenez bien un truc. C'est que si vous, vous n'anticipez pas cette situation, personne ne l'anticipera pour vous. Et je vais vous dire un truc, c'est que j'ai formé depuis 2019 un peu plus de 600 entrepreneurs et investisseurs, d'accord, avec mes différents programmes. Sachez une chose, c'est qu'en fait, si vous venez d'un milieu où vous n'aurez pas d'héritage et que vous travaillez de manière acharnée pour constituer un patrimoine supérieur à la moyenne et que vous dépassez à un moment donné plusieurs millions d'euros de patrimoine, etc., bah, honnêtement, quel est l'intérêt de perdre quasi 50% de votre patrimoine quand vous allez le transmettre à vos enfants, alors que avec de simples tips, avec de simples techniques, vous pourriez éviter quasiment la totalité des impôts. Et ça, le truc, c'est que 99% ne s'y intéressent pas. Des gens ne s'y intéressent pas. Et en fait, c'est pour ça, encore une fois, qu'on crée des écarts de richesse. C'est que les gens qui ont de l'argent ont les capacités de se payer un fiscaliste, ont les capacités de s'intéresser à la fiscalité, à l'argent, à l'investissement, alors que la classe moyenne, qui passe son temps à travailler pour de l'argent, qui achète généralement une résidence principale, qui vont surpayer parce qu'ils ne déduiront pas les intérêts d'emprunt, ils feront généralement des mauvais choix stratégiques en matière d'investissement. Eux, en plus de ça, en plus d'avoir galéré toute une vie, quand ils vont transmettre le patrimoine à leurs enfants, généralement, les enfants ne seront même pas en capacité de maintenir ce patrimoine. Et ça, vous pouvez vous dire que c'est dégueulasse, vous pouvez vous dire que c'est triste, c'est terrible, et que c'est la faute des méchants riches, etc. En fait, comprenez bien une chose, c'est que ce n'est ni de la faute de Bernard Arnault, ni de la faute de, je sais pas, la famille Bettencourt ou quoi que ce soit. C'est malheureusement la faute des gens qui ne s'intéressent pas à la fiscalité. Parce que avoir une holding, vous savez, c'est aussi démocratique que finalement pouvoir voter. Tout le monde peut avoir une société qui détient d'autres sociétés. C'est juste que les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est accessible à tous. C'est juste qu'il faut se former et faire les choses correctement. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Est-ce que je vous dis qu'il faut investir pour acheter un studio dans la Creuse avec une holding? Non. En revanche, quand vous commencez à constituer du patrimoine, quand vous commencez à avoir 1, 2, 3, 4 appartements qui commencent à générer des cash flows, le fait d'anticiper les choses avec de la détention par l'intermédiaire de sociétés va vous permettre petit à petit de transmettre des parts de société à vos enfants. Ces parts vont être exonérées d'impôts lorsque vous allez les transmettre à hauteur de 100 000 euros tous les 15 ans par parent, par enfant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous avez, admettons, deux enfants, que vous êtes associé à votre femme, par exemple, ou à votre mari, si vous êtes une femme, évidemment, dans votre société, vous avez la capacité de transmettre 400 000 euros tous les 15 ans sans passer par la case impôt. Ça veut dire que si vous faites bien les choses et que vous anticipez, vous pouvez déjà fonctionner avec ce type de montage. Deuxième possibilité, vous avez ce qu'on appelle la transmission de l'usufruit. Dans une propriété, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la nue propriété. La nue propriété, c'est quoi? En gros, c'est détenir les murs, entre guillemets. C'est-à-dire, vous êtes détenteur du bien, mais vous n'en avez pas l'usage. Et en fait, on va faire ce qu'on appelle un démembrement de propriété. Le démembrement de propriété va dissocier le fait de détenir le bien et le fait de pouvoir en user, d'accord, en percevoir les fruits, l'usufruit, ça va être. Et l'usufruit, c'est quoi? Ça va être, vous allez maintenir, vous, en tant que propriétaire, admettons, de votre résidence principale, vous voulez rester dans la maison, admettons, jusqu'à votre mort, d'accord? Donc, vous allez conserver l'usufruit et vous allez léguer, vous allez transmettre la nue propriété à vos enfants. L'avantage, c'est que plus vous faites ça tôt, moins il y a de frais sur ce type d'opération. Et du coup, à votre mort, l'usufruit reviendra directement à vos enfants. Et en fait, avec deux patrimoines similaires, si vous avez par exemple deux patrimoines de 500 000 euros, avec situation A, quelqu'un qui anticipe, et situation B, quelqu'un qui n'anticipe pas, dans la situation A, vous aurez quasiment réussi à transmettre 500 000 euros net à vos enfants. Dans la situation B, il se peut qu'il reste à peine 200 000 euros à vos enfants. OK? Et pour autant, c'est de l'argent qui aura été payé avec de l'argent qui aura été déjà imposé. Vous aurez lourdement payé la taxe foncière chaque année, probablement des travaux de rénovation, des taxes d'habitation, etc., etc. Et pour autant, le fait de ne pas s'intéresser à la fiscalité, le fait de ne pas s'intéresser au montage d'opérations, à l'investissement, à toutes les clés que je vous diffuse dans mes contenus sur Internet, vous perdez plus de 60% de votre patrimoine. Mais après, j'ai envie de vous dire, honnêtement, maintenant que vous avez écouté ce que je viens de vous dire, je n'ai aucune peine pour vous, d'accord? Si vous n'anticipez pas, c'est votre putain de problème, ok? Encore une fois, l'héritage et la fiscalité appauvrit l'ignorant, ok? On part tous avec les mêmes bases, les mêmes capacités d'optimiser sa fiscalité. La seule différence, c'est qu'il y en a qui préfèrent scroller sur TikTok pour regarder des vidéos de petits chats et des filles qui vont faire des danses qui twerk, ok? Plutôt que de s'intéresser à la fiscalité des entreprises, à la fiscalité de l'investissement immobilier, à comment lever de la dette avec peu d'apports et comment obtenir des rendements importants lorsqu'on veut investir dans l'immobilier. Et en fait, voilà comment on va avoir une personne qui va être salariée pendant toute une vie, trimée pour essayer de développer un peu de patrimoine et ne rien quasiment transmettre à ses enfants. Et comment une autre personne qui est partie des mêmes points de base va pouvoir créer plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros de patrimoine, et en plus de ça, va à la fois avoir les compétences pour transmettre les informations à ses enfants et ses petits-enfants, pour qu'eux-mêmes puissent faire la même chose. Et en plus de ça, va réussir à transmettre son patrimoine quasi net d'impôts. Comprenez bien ce cheminement. L'argent reste dans la poche des gens qui s'intéressent à l'argent. L'argent fuit les personnes qui ne s'intéressent pas à l'argent. C'est aussi bête et méchant que ça, les amis. OK ? Donc voilà pour ce point. Autre sujet du jour. La baisse des taux, en ce moment, sachez qu'on est en 2024, d'accord ? On a atteint un pic avec les taux l'année dernière qui était très, très élevé. Et qu'est-ce qui se passe désormais ? Alors, quel impact ça a eu ? Les prix de l'immobilier ont drastiquement baissé. Donc, ça a été une excellente opportunité et ça l'est toujours pour les investisseurs qui sont rentrés sur le marché pour, certes, lever de la dette à un coût supérieur, mais qui ont pu payer et faire des lourdes négociations avec des vendeurs qui n'arrivaient plus à vendre parce que, bah, malheureusement, les taux hauts ont écarté beaucoup d'acquéreurs, surtout les primo-accédants et les gens qui souhaitaient acheter des résidences principales. Et quel a été l'effet ? Bah, ça a créé un énorme effet d'opportunité. C'est que les investisseurs qui maîtrisaient l'investissement IMO ont pu obtenir des très grosses négos sur des acquisitions. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Fin 2024, on devrait avoir des taux qui baissent drastiquement. D'accord ? Enfin, drastiquement. On ne va pas revenir sur les taux d'avant, mais disons que, ne serait-ce que si on perd 1%, c'est colossal sur les taux. D'accord ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Les prix vont probablement, du coup, remonter. Parce que, en fait, taux élevé, les prix baissent. Taux bas, les prix montent. C'est aussi bête que ça. Pourquoi ? Parce que c'est l'effet de l'offre et de la demande. Plus vous avez de gens en capacité d'acheter sur un marché, plus les prix vont avoir tendance à augmenter. Moins vous avez d'acquéreurs, plus les prix vont baisser. OK ? C'est aussi bête que ça. Mais qu'est-ce qui fait que ça reste intéressant pour un investisseur d'acheter en période de taux élevé ? C'est qu'encore une fois, les amis, quand vous avez compris le mécanisme de l'investissement IMO et vous avez compris qu'en fait, on achète, mais que la dette est supportée par finalement les encaissements de loyer, à partir du moment où votre bien s'autofinance, vous pouvez même emprunter à 15%, ça revient au même. Sachant que, attention, une notion très, très importante que je vous ai détaillée d'ailleurs dans la vidéo qui est en description. Avant de me dire que c'est pas possible, etc., allez cliquer. Regardez la vidéo, il y en a pour 40 minutes. On a eu des centaines de retours positifs sur ce contenu qui est, je le rappelle, gratuit. Donc, vous n'avez aucun risque à prendre ou à perdre, du coup. Dans l'idée, les amis, quand vous avez un investissement qui est bien réalisé avec une fiscalité qui est optimisée, les intérêts, vous ne les payez pas, d'accord ? Ils sont déduits à 100% de vos impôts. Alors oui, il faut derrière que tout se passe bien, etc., mais pour que tout se fasse bien, il faut justement limiter la part d'inconnu dans l'investissement. Et plus vous limitez la part d'inconnu, moins vous prenez des risques. Moins vous prenez des risques, plus il y a de chances que votre investissement se passe correctement. Pour revenir à la baisse des taux, j'ai eu un rendez-vous cette semaine avec le CIC, d'accord ? Je les cite, je n'ai pas de partenariat avec eux, mais ils m'ont suivi sur plein de projets jusqu'à présent et je salue Laura qui regarde probablement cette vidéo. Qu'est-ce qu'elle nous a raconté cette semaine ? C'est que les taux sont en train de baisser. Donc, il va y avoir à nouveau de la demande sur le marché. Et en fait, là, on est à la croisée des chemins. C'est que pour toutes les personnes qui vont investir maintenant, vous allez bénéficier de taux encore un petit peu élevés. Mais vous savez que dans 6 mois, un an et demi, vous allez être en capacité de renégocier vos taux. Et en fait, quand vous maîtrisez l'investissement IMO et la mécanique des emprunts et des financements, il faut savoir une chose. Quand les taux baissent et que vous renégociez, en cas de renégociation d'un prêt IMO, vous gagnez beaucoup plus d'argent à le renégocier dans les premières années qu'en fin de prêt. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous empruntez de l'argent, la part d'intérêt que vous allez rembourser est beaucoup plus importante au début. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le gogol moyen pense que quand on emprunte 100 000 euros à 4%, on va rembourser 104 000. Je vous rassure, c'est beaucoup plus rentable que ça pour les banques. Qu'est-ce qui se passe quand on emprunte 100 000 euros à 4%? On emprunte 100 000 euros, on paye 4 000 euros d'intérêt sur la première année. Ensuite, année numéro 2, on aura remboursé peut-être 3 000 euros de capital. Donc, sur la deuxième année, on va payer 4% sur les 97 000 restants. Et ainsi de suite. Okay? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que sur les premières années, plus de la moitié de la mensualité que vous allez payer en fait, contient les intérêts. Donc sur une mensualité, admettons à 1 000 euros, si vous avez 600 euros d'intérêt la première année, ça veut dire que vous ne remboursez que 400 euros de capital. Si vous faites baisser votre taux, admettons, ne serait-ce que d'1%, 1% sur 4, ça fait 25% de baisse, d'accord? Donc, admettons que vous ayez 600 euros au départ d'intérêt sur votre mensualité à 1 000 euros. Si vous baissez ça de 25%, c'est-à-dire que vous baissez de 150 euros sur les 600 euros et ça fait 150 euros de capital en plus remboursé, d'accord? Peut-être que ce genre de notion vous paraissent abstraites et compliquées, mais c'est pour ça que c'est important de se former. C'est pour ça que quand on maîtrise ça, on gagne beaucoup d'argent. Et je vais vous dire une chose. Moi, j'ai réalisé plusieurs acquisitions et la part de nos clients ont réalisé beaucoup d'acquisitions sur 2023, même avec des taux à plus de 4%. Mais sachez que quand les taux vont repasser aux alentours des 3%, on va se gaver sur une renégociation. Parce que, encore une fois, soit on va pouvoir baisser les mensualités, ce qui est un choix, soit baisser la durée d'emprunt. Alors ça, c'est un arbitrage. Honnêtement, entre baisser la mensualité ou réduire la durée d'emprunt, moi j'aurais tendance à vous dire de baisser la mensualité. Pourquoi? Parce que les encaissements vont vous permettre sur la durée de dégager plus de cash flow qui vous permettra soit de réaliser des travaux plus facilement, soit de réemprunter tout simplement beaucoup plus facilement derrière pour faire d'autres projets. Ou à un moment donné, je ne sais pas si vous avez besoin de financer un prêt travaux, etc. Bref, c'est toujours utile. Plus vous avez du cash flow mensuel dans votre poche tous les mois, plus c'est efficace et plus ça vous permet d'être agile. Mais il y a aussi le choix éventuellement de rembourser plus rapidement le bien et du coup d'encaisser des loyers pleins plus rapidement. Après, ça, je vous laisse trancher. Il y a des pour et des contre dans les deux cas. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous feriez. Moi, titre perso, je pense que je suis plus sur une diminution de mensualité. Je trouve que c'est plus pertinent. En tout cas, avec mon profil d'investisseur en ayant la trentaine. OK? Maintenant, quel impact la baisse des taux aura sur l'investissement IMO, les amis? Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, les prix risquent probablement de réaugmenter. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir à nouveau de la demande sur le marché. Okay? Les particuliers vont avoir plus de possibilités d'acquérir leur résidence principale. Le HCSF, le Haut Conseil de Stabilité Financière, avait déjà largement assoupli les normes pour qu'il y ait de plus en plus de dossiers de financement acceptés par les banques. Contrairement à ce que les gens disent, moi je ne me base que sur des statistiques et des données financières, d'accord? Je ne suis pas dans l'idéologie. L'objectif c'est quoi? C'est de se baser sur du factuel. Factuellement, en 2020, 2021, 2022, vous aviez 80% des dossiers qui devait respecter 35% d'endettement auprès des banques. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, admettons, on va faciliter les choses, vous gagnez 3 000 euros, les banques avaient pour obligation de ne pas dépasser sur 80% des dossiers financés des clients qui dépassent plus de 1 000 euros de mensualité sur, admettons, 3 000 euros de revenus. OK? Ce chiffre a été modifié. Maintenant, vous avez 50% de plus des dossiers acceptés. Pourquoi? Parce que ce chiffre est passé à 70% des dossiers. Je sais, ça peut paraître compliqué dit comme ça, mais c'est très simple. Avant, 8 dossiers sur 10 devaient respecter cette norme. Maintenant, c'est plus que 7. Donc là, on s'attardait sur les 8 dossiers sur 10. Et donc avant, il y avait 2 dossiers sur 10 qui pouvaient déroger complètement à cette règle. Et maintenant, on est passé à 3 dossiers sur 10, soit 30% des dossiers qui passent dans la poche, enfin, sur le bureau de votre banquier, d'accord? Par conséquent, quel est l'impact? Ça veut dire que vous avez 50% de chances en plus de pouvoir exploser tous les scores en termes de capacité d'emprunt. C'est ce qu'on apprend à nos clients, c'est ce que je réalise à titre perso. Moi, ce que je disais, j'ai eu un client la semaine dernière au téléphone, dans le cadre d'un des coachings de la formation « Créer et gérer sa foncière de A à Z », Les amis, si on devait se baser sur ma capacité d'endettement, je dois être à 400%, même peut-être plus. Okay? Comprenez bien une chose, c'est que quand vous avez par exemple Patrick Drahi, propriétaire du groupe Altice, qui détient SFR, Numéricable, le groupe BFM, RMC, etc., quand lui détient 40 milliards de dettes, vous pensez que sincèrement, il se base sur ses fiches de paye pour faire un calcul débile et se dire ah, du coup, il va pouvoir rembourser tel truc? Mais non. On va se baser sur ses actifs, on va se baser sur les revenus de ses sociétés, et point à la ligne. On sait qu'il va réaliser de l'optimisation fiscale. Optimisation ne veut pas dire fraude, comprenez bien ce terme. Optimisation veut dire employer les règles en utilisant à la lettre et à la ligne près tout ce que le droit vous donne, d'accord, pour limiter votre imposition. Encore une fois, l'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le sachant. Vous savez, dans le cadre d'un investissement IMO, vous n'êtes quasiment pas fiscalisé. Vous n'êtes quasiment pas fiscalisé. Pourquoi? Parce que quand vous optimisez la détention de votre patrimoine, déjà, les impôts, bah, vous allez déduire de vos impôts l'ensemble des intérêts d'emprunt. Vous allez déduire l'ensemble des charges, vous allez déduire éventuellement les frais de gestion, vous allez déduire l'intégralité de vos primes d'assurance pour les garanties de loyer impayés, les éventuelles garanties vacances locatives, etc., etc. Et c'est seulement sur le résultat qui restera une fois que vous avez tout déduit que vous allez payer de l'impôt. Et je vais vous faire gagner du temps. Quand vous réalisez correctement un investissement, que vous mettez entre 10 et 30% d'apport et que le reste c'est du financement, si vous optimisez correctement les choses, pendant les 7, 10, peut-être 12 premières années, vous n'allez pas payer un centime d'impôt. Et la deuxième chose qui n'est pas fiscalisée et que la plupart des gens oublient, c'est que les amis, pourquoi les gens deviennent toujours plus riches lorsqu'ils investissent dans l'IMO? C'est qu'en fait, le remboursement du capital, lorsque votre dette est remboursée année après année, c'est pas fiscalisé. Ce n'est pas fiscalisé. Votre loyer est certes fiscalisé, mais encore une fois, si on l'optimise en amont, vous ne payez pas d'impôt dessus. Mais en plus de ça, le fait que le capital se rembourse année après année, vous échappez complètement à l'impôt. Ce qui veut dire que vous avez mis 10 000 euros de votre poche, admettons, en 2000, en 2020, votre bien est entièrement payé. Les 10 000 se sont transformés en 100 000 remboursés et valorisés. Ça vaut, admettons, je sais pas, 150 000. OK? Vous avez du coup transformé 10 000 en 150. Donc déjà, bon, je vous laisse calculer le rendement. Je pense que c'est pas dégueulasse par rapport à votre livret A ou à votre assurance vie en fonds euro qui est backé par une monnaie qui est en train de s'effondrer. Mais bon, ça, parenthèse, on en parlera après. Mais c'est surtout que sur cette plus-value réalisée, vous n'êtes pas fiscalisé tant qu'il n'y a pas de vente, d'accord? Et pour autant, votre loyer aura subi l'inflation, votre loyer aura drastiquement augmenté, etc., etc. Donc voilà pour ce sujet. Ça, c'est des thématiques qu'il faut vraiment avoir en tête. Si vous êtes débutant et que vous voulez développer du patrimoine à partir de zéro ou à partir d'une situation financière entre guillemets lambda, d'accord? Vous êtes juste en CDI. Vous êtes en capacité de mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois, sachez que en quelques années, vous pouvez développer 1, 2, 3, 4, 5, 10 appartements qui vont assurer largement vos arrières, vous permettre d'avoir une retraite anticipée, vous permettre de transmettre à vos enfants un patrimoine pérenne, d'accord? Et derrière, vous permettre d'être beaucoup plus libre financièrement. Même si ce terme est galvaudé, même si il y a tous les gens Kevin sur Internet qui vont vous dire deviens libre, fais plus rien, pars vivre à Bali, etc. Ok, bon, ça c'est mignon. Mais dans les faits, effectivement, une fois que vous avez réalisé des investissements, que tout a été correctement réalisé, que tout est bien optimisé, backé, etc., bah oui, techniquement, vous pouvez, à un moment donné, arbitrer une partie de votre patrimoine, le placer sur des investissements un petit peu plus passifs, comme par exemple des ETF ou des choses comme ça. Et effectivement, à un moment donné, comparé à la moyenne des gens, vous allez pouvoir partir et ne plus rien foutre si vous voulez. Après, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de ne plus rien faire parce que, une fois que vous avez compris le fonctionnement de l'investissement et de l'argent, c'est tellement incroyable que ça en devient passionnant et je suis prêt à parier que vous n'abandonnerez pas, enfin, vous ne lâcherez pas et vous n'arrêterez pas de travailler. Et je vous dis ça, j'ai côtoyé pas mal d'investisseurs, notamment des investisseurs qui ont passé 70 ans, 80 ans et qui travaillent encore, qui, année après année, continuent de réaliser des investissements. Et je vais vous dire, un de mes investisseurs préférés, c'est Warren Buffett. Warren Buffett a 80, il doit avoir 90 ans maintenant passé. Il investit encore, il travaille encore, il se tape des rapports financiers toute la journée malgré son âge. Est-ce qu'il est obligé de le faire? Non. Mais en fait, il peut le faire. Il sait le faire. Et chaque année, il décuple ses capacités financières en investissant. Donc en fait, pourquoi ne pas le faire? Parce que c'est fun, ça ne demande pas un travail physique éreintant. Ça nécessite, une fois que vous avez déjà développé du patrimoine, que peu de temps à consacrer chaque mois. Donc en fait, pourquoi ne pas le faire? Ok. Bref, fin de la parenthèse. Maintenant, on va parler d'un sujet qui fâche, c'est l'euro et l'inflation. Vous allez perdre, encore une fois cette année, beaucoup de pouvoir d'achat. Sachez-le, pas besoin d'attendre que ce soit sur le 20h pour le comprendre. Je vous le dis très sincèrement, les amis, anticipez. On est actuellement fin avril 2024. N'attendez pas qu'on vous parle sur BFM TV ou CNews ou le 20h de TF1 pour vous dire en décembre « Ah, cette année, l'inflation a été encore de 6-7%, etc. » Les amis, je vous le dis, c'est en marche. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières années? Il y a eu une pandémie en 2020. L'État a pris 50% de dettes en plus. D'accord? Je vous laisserai juger de la bonne gestion des finances publiques. Chacun son avis. On a fait, quoi qu'il arrive, plus de 50% de dette publique en plus. D'accord? Cette dette a été déversée sur les marchés, a été déversée dans la poche de certains contribuables, ce qui a poussé à une inflation folle. En réaction, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a drastiquement augmenté les taux pour essayer de limiter l'inflation. Malgré ça, il y a quand même une inflation monstrueuse sur la plupart des denrées rares, d'accord ? Que ce soit l'énergie, la nourriture, même la pierre, etc. Même si les prix ont un petit peu baissé au cours des dernières années, regardez la différence entre les prix dans les années 2000 et les prix en 2024, 24 ans plus tard, vous allez comprendre la situation. Ok, n'oubliez pas, hein, le mètre carré à Paris dans les années 2000 était à 2000 euros. Aujourd'hui, en moyenne, on est à 10 000. Alors oui, on avait dépassé les 10 000 il y a un an, mais on est encore à 10 000. On a fait x5, 500%. D'accord, 500% en 20 ans. Autre parenthèse, regardez le prix des voitures, les amis. Moi, je suis un passionné de voitures. Un Porsche Cayenne, quand le Porsche Cayenne est sorti, quand Porsche a inauguré cette voiture, ça valait 60 000 euros, d'accord ? 60, 70 000 euros. Aujourd'hui, ça vaut 200, 250 000 euros. Comprenez, ça a fait x3. Les voitures ont pris en moyenne x3. À l'époque, avec 10 000 euros, tu pouvais acheter une voiture. Aujourd'hui, tu peux acheter, allez, tu peux acheter un T-Max et encore un T-Max d'occasion, ok ? Tout a augmenté. Le seul truc qui n'a pas augmenté et qui a perdu de la valeur, c'est votre billet de banque. Okay ? Et ça, en 2024, ça va continuer. Pourquoi ? Parce que ce que je vous disais juste avant, c'est que là, les taux vont baisser en 2025. Mais pourquoi ? C'est pour acheter la paix sociale. C'est parce qu'en fait, on va baisser les taux pour redonner du pouvoir d'achat sur le papier aux gens. Mais en réalité, si on ne construit pas plus d'actifs, bah les gens vont être sur un marché avec plus d'argent pour le même nombre d'actifs qui est limité. Donc mécaniquement, les actifs vont encore une fois exploser à la hausse. D'accord ? Mettez-vous, vous voulez comprendre ? Je vais vous faire comprendre une chose. Je vais vous faire comprendre comment l'inflation fonctionne et c'est très simple. Vous êtes dans une pièce avec 100 personnes. D'accord ? Vous êtes 100 personnes, vous avez tous 1000 euros à votre disposition. Et vous avez un panel de 10 articles dans cette pièce à acheter. D'accord ? La demande est du coup drivée par une offre qui est limitée. Il y en a 10 pour 1000 personnes. Et maintenant, vous allez être en capacité d'acheter à un prix, d'accord, qui a été fixé. Maintenant, dans la même pièce, 10 ans plus tard, toutes les personnes n'ont plus 1 000 euros à disposition, mais 10 000 euros. OK? Et pour autant, il y a toujours 10 choses à acheter. À votre avis, est-ce que tout le monde ne va pas être en capacité de surenchérir pour acheter les 10 choses qui étaient en capacité d'être achetées? Bah, je vous le dis très vite, pour faire gagner du temps, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'argent, on peut l'imprimer en illimité. Votre billet de banque, ce pourquoi vous vous levez tous les lundis matins et vous vendez 5 jours sur 7 en moyenne toute votre vie jusqu'à votre retraite, c'est de l'argent qui est imprimable, d'accord? Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que ça s'imprime. En revanche, qu'est-ce qu'on n'imprime pas? On n'imprime pas des logements, d'accord? On n'imprime pas de l'or, on n'imprime pas de la nourriture, on n'imprime pas de l'énergie. Tout ça nécessite de la logistique, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et c'est pourquoi on peut augmenter la quantité monétaire, mais on ne peut pas multiplier en 3 minutes le nombre de biens immobiliers dans un pays. Et en France, il faut savoir un truc, c'est qu'on a une demande moyenne de 500 000 logements par an. Au mieux du mieux, on avait atteint 300 000 logements produits par an, donc on faisait un déficit de 200 000 en moyenne. Et aujourd'hui, on est à peine à 200 000 logements. Donc, comme le déficit n'a jamais été comblé, bah, mécaniquement, il y a toujours plus de demandes. On est toujours plus nombreux dans la population. Donc mécaniquement, les prix immobiliers ne feront que augmenter. Certes, il y aura peut-être des cycles avec un petit peu de baisse, puis des hausses, etc., etc. Mais le fonctionnement est toujours le même. Donc comprenez bien une chose, c'est que l'inflation va continuer. L'inflation permet aux politiques de diminuer la dette publique par rapport à tout simplement leurs dépenses, etc. Parce que plus il y a de l'inflation, plus il y a de la TVA, plus il y a des impôts, etc. Donc mécaniquement, ça fait baisser le coût de la dette. OK ? Mais pour vous dire une chose, et on va terminer ce podcast là-dessus, comprenez bien une chose. Si vous avez 10 000, 50 000, 100 000, 1 million d'euros de côté et que cet argent n'est pas rémunéré à plus 5, 6 %, vous allez perdre encore de l'argent en 2024, puis en 2025, etc., etc. Et la baisse des taux veut dire qu'il y aura encore plus d'argent de masse monétaire dans le monde. Et qui dit masse monétaire supérieure dit que les actifs vont continuer d'augmenter. L'énergie a explosé, le cacao a explosé, l'immobilier va continuer d'augmenter, le coût des voitures va continuer d'augmenter, l'alimentation va continuer d'augmenter. Le seul truc qui ne va pas augmenter, c'est votre épargne, si elle n'est pas rémunérée, et surtout la valeur de votre billet de banque, qui va s'effondrer au fil des années. OK ? On termine ce podcast là-dessus, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous êtes sur une plateforme de podcast, les amis, rétribuez avec une petite note 5 étoiles. Abonnez-vous, c'est hyper important. Partagez ce podcast à des amis. Et voilà, protégez-vous, protégez votre épargne. Faites du sport, faites l'amour par la guerre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Ciao, ciao.